jamais rien dit de sa décision de quitter son pays natal. Il avait tourné la page sur ses années, laissant dans la banlieue de Bucarest le souvenir d'une famille dont il prétendait n'avoir plus jamais reçu de nouvelles. Le dimanche soir, la table était mise chez Georges et Esther. Réfugié dans le silence, mon oncle pensait que tout était vain, en dehors de la sagesse contemplative. Ma tante, petite femme rousse, à la bouche large et aux yeux verts, avait gardé l'habitude de souligner son regard de tragédienne d'un épais trait de crayon. Elle animait ses dîners de son bavardage incessant. Du temps de sa splendeur, elle avait dû ressembler à Sarah Bernhardt. Elle en avait gardé le sens de la mise en scène, et s'évanouissait les jours de marché, quand la foule la serrait de trop près. Ayant perdu depuis longtemps l'espoir d'un dialogue possible avec son mari, elle se rattrapait le dimanche soir avec sa belle-famille, qu'elle régalait de ses anecdotes. Le reste du temps, elle fumait cigarette sur cigarette, attendant la clientèle, dans leur boutique de nouveautés, près du métro Charonne. Ma tante Élise et son mari Marcel vendaient des vêtements professionnels, bleus de travail, chemises de laine à gros carreaux, blouses anthracite, au cœur de la banlieue ouvrière de Malakoff. Élise lisait beaucoup, citait grands auteurs et poètes, et défendait farouchement ses opinions marxistes au cours du repas familial hebdomadaire. Je passais parfois de courtes périodes de vacances dans la proche banlieue où vivait Martha. Ronde, gourmande, empressée à me satisfaire, ses yeux pétillaient derrière les verres épais de ses lunettes. Longtemps, j'ai imaginé sa rue habitée par toutes les grand-mères des enfants de la capitale. Elles y préparaient les mêmes douceurs pour fêter leur venue, portaient la même blouse et arboraient toute cette jolie coiffure mousseuse. Louise restait ma préférée, elle qui ne faisait pas partie de notre famille. Peut-être avais-je senti que notre complicité était plus profonde qu'avec ceux de mon sang. Aussi affectueux fussent-ils, une impalpable barrière laissait à bonne distance de moi oncle, tante, grands-parents, interdisant les questions, repoussant toute confidence. Une société secrète liée par un deuil impossible. Au cours de nos après-midi dans la pénombre de son cabinet, Louise me détaillait les réalités d'une guerre qui avait pris fin quelques années avant ma naissance. Elle était intarissable. Personne ne devait oublier les angoisses, les humiliations des persécutés. Longtemps, elle m'a caché les avoir connues elle aussi. Jusqu'à mes 15 ans, Louise a respecté le secret dont mes parents m'avaient entouré. Secret dont elle faisait partie. Peut-être y était-elle un signe, avant de m'en dire davantage. Un mot, une allusion de ma part qui lui permettrait d'entrouvrir la porte. Un soir, la télévision a diffusé un film sur cette période. Et mon père s'est retiré dans son gymnase, incapable d'en supporter le spectacle. Le choc de ses haltères, les sifflements de sa respiration ont couvert les ordres aboyés dans une langue qu'il ne pouvait plus entendre. Je suis resté seul avec ma mère sur le canapé du salon. Plus muette que jamais, à qui pensait-elle? Sans un mot, nous avons assisté à cette fiction en noir et blanc. Décors reconstitués en studio, comédiens en uniforme, figurants massés dans des enclos. Fasciné par le spectacle de ces corps dévêtus, serrés les uns contre les autres, je n'ai pu détacher mes yeux de ces femmes qui protégeaient leur poitrine, de ces hommes, les mains en coquille sur leur sexe, avançant dans le froid en file indienne pour se rendre au bâtiment des douches. Les premières nudités qu'il m'était donné d'apercevoir à l'écran, forme pâle qui se détachait sur le fond gris des baraquements. Sachant trop bien ce que j'allais en faire une fois seul dans ma chambre, j'ai attardé mon regard sur ces chairs déjà profanées. J'avais quitté le primaire. Je fréquentais le collège de mon quartier. Je me faisais un devoir de me maintenir en tête du peloton et je franchissais la ligne d'arrivée dans les premiers. Dispensé de sport pour raisons médicales, je passais l'heure de gymnastique dans la salle de permanence, plongé dans mes livres. Par la fenêtre, je voyais les autres s'empoigner, chercher à s'emparer du ballon qui se faufilait entre leurs jambes. J'entendais leurs cris, leurs vivats qui saluaient un but. Aussi robustes que mon frère, aussi impitoyables, ils terrassaient leurs adversaires pendant que je penchais ma poitrine creuse sur la table de travail. Les jours défilaient, tous semblables, les nuits se succédaient. J'y déployais mon théâtre d'ombre, une existence parfaitement réglée. Jusqu'à l'événement qui allait en marquer le tournant. Mon corps s'était allongé. Je cachais mes jambes et mon torse étroit dans des vêtements amples. La veille au soir, j'avais soufflé mes 15 bougies. Bientôt, on fêterait un autre anniversaire, celui de la victoire de 45. Le proviseur, qui avait décidé de projeter aux élèves un documentaire, nous avait réunis dans l'obscurité d'une salle de classe, face à un drap tendu sur le tableau noir. Je m'étais retrouvé assis à côté du capitaine de l'équipe de football, un garçon râblé, chahuteur, aux cheveux taillés en brosse, qui ne m'avait jamais adressé la parole. La projection commença. Pour la première fois, je vis les montagnes. Ces terribles montagnes, dont je n'avais lu que des descriptions. Les bobines tournaient, dévidant leurs pellicules. On n'entendait que le ronronnement du projecteur. Des terrils de chaussures, de vêtements, des pyramides de cheveux et de membres. Ni figurants, ni décors, contrairement à ce film que ma mère et moi avions regardé en silence. Je serais bien allé m'enfermer pour échapper à ces images. L'une d'entre elles m'arrivait à mon siège. Celle d'une femme, qu'un soldat en uniforme tirait par un pied pour la précipiter dans une fosse déjà comble. Ce corps, désarticulé, avait été une femme. Une femme qui avait couru les magasins, contemplé dans un miroir la ligne élégante de sa nouvelle robe. Une femme qui avait remis en place une mèche échappée de son chignon. Elle n'était plus que cette poupée disloquée, traînée comme un sac, et dont le dos rebondissait sur les cailloux d'un sentier. La vision était trop forte, l'obscénité trop violente pour que je pense emporter cette image dans ma chambre. Je n'ai pourtant pas hésité certains soirs à en convoquer d'autres, comme après la fiction télévisée, lorsque j'avais fait mon choix dans la file des corps dénudés, désignant celui que je soumettrais à mon désir. Mon voisin, le capitaine d'équipe, s'était agité sur le banc dès le début de la projection. Profitant de l'obscurité, il avait proféré à mi-voix quelques grossièretés qui avaient déclenché l'hilarité de la classe. Il étouffa un rire à la vue de ce corps obscène, qui à chaque secousse ouvrait ses cuisses sur un triangle noir. Il me poussa du coude, et je m'entendis rire, moi aussi, pour lui plaire. J'aurais aimé trouver quelque chose de drôle à dire, pour l'amuser. Il a imité l'accent allemand, il a dit « Ah, chien de juif !» Et j'ai ri, encore une fois, plus fort. J'ai ri parce qu'il m'avait poussé du coude, parce que c'était la première fois que l'un de ces corps glorieux recherchait la complicité du mien. J'ai ri, jusqu'à la nausée. Soudain, mon estomac s'est retourné. J'ai cru que j'allais vomir, et sans prendre le temps de réfléchir, je l'ai frappé violemment au visage. Il a eu un moment de stupeur. J'ai juste eu le temps de voir la femme en noir et blanc se refléter dans ses yeux écarquillés avant qu'il ne se jette sur moi pour me bourrer de coups. Nous avons roulé sous la table. Je n'étais plus moi-même. Pour la première fois, je n'éprouvais aucune crainte. Je n'avais pas peur que son poing vienne se loger dans le creux de mon plexus. Ma nausée avait disparu. Je l'ai attrapé par les cheveux pour lui cogner la tête contre le sol. J'ai enfoncé mes doigts dans ses yeux. J'ai craché dans sa bouche. Je n'étais plus au collège. Je luttais, comme j'avais l'habitude de le faire chaque nuit, avec la même excitation. Mais, contrairement à mon frère, mon adversaire n'allait pas prendre l'avantage. Je savais que j'allais le tuer. J'allais vraiment faire disparaître son visage dans le sable. Alerté par nos cris, le surveillant interrompit la projection et ralluma les lumières. Aidé de quelques élèves, il nous sépara. Je ne voyais plus que d'un œil. Un liquide chaud coulait sur ma joue. On m'emmena à l'infirmerie. Je quittai la salle sous les insultes de mon voisin. Il avait le visage en sang. J'avais tout de même réussi à lui endommager sérieusement le nez. Victoire qui me valut durant quelques semaines la considération de ma classe. Je gardais de cet épisode un pansement sur l'arcade sourcilière, promené dans les couloirs du collège avec fierté. Mais cette blessure m'apporta bien davantage qu'une gloire éphémère. Elle fut le signe que Louise attendait. Dès le lendemain, rue du Bourg-l'Abbé, je racontais tout à ma vieille amie. À mes parents, j'avais servi une version qui m'évitait d'évoquer le documentaire, une bagarre dans la cour de récréation suite à un stylo volé, celui que j'avais reçu la veille en cadeau d'anniversaire. J'ai surpris une lueur d'étonnement dans l'œil de mon père, mêlée d'un rien de satisfaction. Son fils serait donc capable de se battre? À Louise, j'ai dit la vérité. À elle seule, je pouvais la dire.